Jean-Gilbert, vos amis, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les premiers à être connectés aujourd'hui. Hermana Flori, que Dios me la bendiga. Y a su esposo también, hermano Luis. Voilà le mercredi 10 novembre 2021. J'espère que tout s'est bien passé pour vous depuis notre dernière rencontre qui était en fait lundi. Bonjour la belle-mère. Vous êtes plus nombreux à être connectés, mais je vois pas tous les noms apparaître malheureusement ce matin. Donc, si vous nous faites un petit message dans la zone commentaire, on saura vous identifier en bonne et due forme et vous saluer comme il se doit. Effectivement, Thérèse, tu es de très bonne heure ce matin, 8h22. Tu as battu ton record à plate couture. Bonjour Sylvie, soyez bénie, bienvenue parmi nous. Faut croire, Thérèse, que tu t'es tellement ennuyée de notre non-diffusion d'hier que là, tu t'es dit ce matin, je me connecte le plus tôt possible. Alors, bienvenue parmi nous, même le plus tôt possible. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour à la sœur Manon et au pasteur André. J'ai changé l'angle de la caméra ce matin parce que il fait grand soleil à l'extérieur. Et puis, filmer en contre-jour fait que c'est pas bon pour l'image. Ça fait de la surbrillance et tout ça. Donc, pour éviter ça, donc je me suis mis de côté aujourd'hui. Effectivement, Thérèse, ils ont changé les configurations du logiciel que j'utilise pour mon appareil. Je ne suis pas sur Windows comment ça s'appelle déjà? Sur Windows. Avec le logiciel que j'utilise, donc sur mon Mac, je dois passer par Chrome et puis Facebook a changé différentes choses comme configuration. Donc j'essaie de changer des petites choses à droite et à gauche. Mais je ne sais pas si ça fonctionne pleinement. Bonjour à Marie-Marthe. L'idée, c'est qu'inévitablement, à un moment donné, tout cela va nous pousser à diffuser directement depuis Zoom. Mais quand je vais le faire depuis Zoom, je ne serai pas en mesure de voir tous les gens qui se connectent et qui saluent depuis Facebook, où il faudrait que j'ai deux connexions distinctes. Donc, c'est pour ça que j'ai hésité à le faire jusqu'à présent. Bonjour Guy. Bonjour Julie. Bonjour à votre époux aussi. Rebonjour à la belle-mère. Bonjour Sonia. Bonjour à la petite famille. Donc encore 4 ou 5 minutes avant que nous débutions. On vous rappelle les annonces habituelles. Ce soir, 19h, c'est donc l'heure de l'étude biblique qui va être en présentiel, comme depuis déjà plusieurs semaines. Pas la peine de s'inscrire pour y prendre part en présentiel ce soir. Sinon, c'est bien entendu toujours sur nos plateformes Internet de surcroît ça. On vous rappelle que pour l'assemblée de dimanche, on maintient les inscriptions. Ce dimanche, on était presque à pleine capacité. Voilà d'où l'importance des inscriptions. Donc, on vous invite à ne pas tarder. Une première série d'inscriptions vont être confirmées ce soir après l'étude biblique. Donc, on vous invite à communiquer avec nous pour réserver votre place pour dimanche. Merci Manon, bon matin à toi aussi. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Bonjour Rachel, bonjour aux sœurs qui sont avec toi. Bonjour Claude, que Dieu te bénisse. Il faut saluer la sœur Derna de ma part. De même que les grands enfants qui sont à l'école actuellement. Donc Marcus et Léa. Et tu salues Déborah aussi. Elle est peut-être même dans tes bras actuellement. Donc gros bisous à Déborah. Bonjour à Sylvia et au pasteur David. Si vous entendez du bruit autour de moi, c'est simplement la demoiselle Nema. Là, elle s'en va boire. Donc, elle va faire plaisir à la belle-mère avec ses grosses lampées d'eau. Bonjour Farley, que Dieu te bénisse, bienvenue parmi nous. Claude, on a bien hâte de découvrir cette petite Déborah de Visou. Alors, encore une belle journée en prévision aujourd'hui, beaucoup de soleil, un peu frais, mais journée intéressante aussi. On reste au-dessus des normes de saison. Je crois qu'actuellement on devrait être autour de 7 degrés en moyenne, et puis hier on a tapé le 15 degrés en plein cœur de l'après-midi, donc belle journée pour ceux qui ont pu en profiter. Ok, couchez bien. Couchez. Merci. Elle a ses petites habitudes comme ça, donc elle prend ses... elle a des heures très précises avec lesquelles elle fonctionne. Et puis, donc, vers 9h, 8h30, c'est des grosses lampées d'eau. Elle n'est pas encore habituée au changement d'heure. Non, oh non, là, ça va. Mais lundi, le changement d'heure, elle ne connaissait pas. Donc, à 4h30, elle faisait sa comédie pour nous réveiller et la faire manger, puisqu'elle a l'habitude de manger à 5h30, mais comme on a reculé l'heure ce dimanche, donc un vrai métronome. On continue l'étude dans Hébreux 4 au verset 12. Donc, si vous voulez ouvrir vos Bibles, Hébreux 4, le verset 12. Bonjour à la sœur Nancy. Bonjour à ma tante Vivi. Encore une minute et puis on va commencer. qu'on s'excuse pour l'absence d'hier. J'avais des examens à l'hôpital tôt le matin. J'étais là-bas à partir de 6h30. Donc voilà. Donc on va prier et on débute pour ce matin. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci pour cette occasion que nous avons de méditer ta parole et de partager, Seigneur, la richesse et les profondeurs de ta parole. Nous prions, Seigneur, que celle-ci trouve en nous des cœurs qui sont disposés, des cœurs qui lui sont acquis et une terre, Seigneur, dans laquelle elle peut s'implanter. Croître en étant arrosé par ton onction, par l'onction de ton esprit, et être amené, Seigneur, à porter un fruit qui te sera agréable durant toute l'éternité. Alors nous prions, Seigneur, de bénir notre entendement, d'ouvrir notre compréhension à ce que tu as pour nous. Nous savons que cette parole, tu l'as préparée de toute éternité en pensant à cette journée. Que tu puisses donc, Seigneur, répandre sur nous ce que tu avais préparé, penser et planifier, et en toute chose, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, si vous entendez des bruits incongrus, c'est Néma qui joue avec un jouet un peu bruyant. Donc, on va espérer qu'elle ne mâchouille pas trop le jouet. Alors, je lis pour vous le passage de cette semaine. Comme vous savez, on approfondit la prédication que le pasteur Sergio a eue à partager ce dimanche sur la parole de Dieu. C'est un verset qu'on avait déjà étudié sur une seule journée, il y a quelques mois déjà, alors qu'on faisait le survol de tous les symboles avec lesquels sont illustrés la parole de Dieu dans la Bible. Et un de ces symboles était une épée. Donc on avait vu plusieurs passages qui ont trait à l'épée que représente la parole de Dieu, notamment dans ce chapitre 4 d'Hébreu, mais aussi dans Éphésiens chapitre 6, lorsqu'on parle des armes qui nous sont données, de la cuirasse ou de l'armure du croyant. Donc on parle aussi d'une épée, qu'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on s'arrête strictement sur Hébreux 4 au verset 12 et on essaie tout au long de cette semaine, on avait une première partie lundi, on essaie donc de détailler ce que ce verset nous dit et en quoi cette épée qu'est la parole de Dieu est si importante. Alors je lis pour vous Hébreux 4, le verset 12, je vais le lire deux fois tout simplement pour permettre à la parole de bien entrer dans notre compréhension. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je répète, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors lundi, dans notre première intervention, on a parlé sur le fait que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et aujourd'hui, on prend donc la deuxième partie de cette phrase. On nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. On va revenir sur le terme tranché ou tranchant, à la fin de notre intervention, mais on va aller étayer un peu les autres parties de cette courte phrase. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alors, plus tranchante que. Ça veut dire que le tranchant de l'épée de Dieu a été mis en compétition. Ça veut dire que le tranchant de la parole de Dieu a été exposé, a été testé, a été comparé avec d'autres choses. Ça veut donc dire que l'efficacité puisqu'on dit qu'elle est plus tranchante. Donc on arrive à un verdict sur l'efficacité, un terme qu'on a eu à utiliser lundi lorsqu'on a dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, l'efficacité de la parole de Dieu dans ce chapitre 6, dans ce chapitre 4 d'Hébreux, nous parle donc du fait qu'elle serait tranchante ou non. Et l'auteur aux Hébreux, qu'on présume être l'apôtre Paul, nous dit que le constat auquel on arrive, c'est que la parole de Dieu est plus tranchante. Donc là, son efficacité a été éprouvée. De surcroît à cela, son efficacité a été attestée comme supérieure à toute autre épée, à tout autre tranchant qui puisse exister. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas une invention d'aujourd'hui qui a encore besoin d'être testée, à savoir si elle est juste ou non, si elle est appropriée ou non, si elle est efficace ou non. On se rappelle que la parole de Dieu est donc donnée par Dieu pour l'instruction de ses enfants, afin que la vérité de Dieu, les plans de Dieu, les préceptes de Dieu, les objectifs de Dieu pour l'humanité soient connus et pour amener le pécheur à la repentance et au salut. Et en ce sens, on comprend que la parole de Dieu est le seul message et le seul écrit qui puisse effectivement nous amener à salut. Pourquoi? Parce que la parole, la Bible nous dit qu'elle est Dieu faite chair. Cette parole a été faite chair. Et cette parole est faite chair à travers Jésus, Christ, le Sauveur et le Seigneur de l'humanité. Donc, première chose, ou premier constat auquel on doit venir, nous, en tant que croyants, c'est que effectivement la parole de Dieu est éprouvée et est attestée comme supérieure. Et ça, c'est non seulement bon de le savoir, mais c'est bon d'y revenir aussi. Et c'est bon d'adapter notre vie par rapport à ce constat-là. Il y a certains croyants qui se tournent vers la parole de Dieu, mais avec une certaine hésitation, avec certains balbutiements ou avec certains freins. Oui, on y croit, mais oui, on adhère, mais oui, on accepte, mais il n'y a pas de mais. C'est la parole de Dieu, elle est véridique en toute chose, elle est efficace en toute chose, elle est la pleine et totale sagesse et pensée de Dieu pour l'humanité. Et aujourd'hui, lorsque nous prenons notre Bible entre nos mains, lorsque nous y plongeons notre regard, nous devons le faire avec ce constat, avec cette proclamation dans notre âme et dans notre esprit que la parole de Dieu est totalement vraie, uniquement vraie et parfaitement issue de la pensée du cœur de Dieu pour le salut de l'humanité. Pourquoi on doit revenir à ce constat-là? C'est tout simplement que, en tant que chrétiens, nous sommes des enfants de la parole. En tant que croyants, nous sommes des enfants de la parole. Dieu se révèle à nous et se révèle à l'humanité à travers sa parole. Alors, pour nous, ça doit être non seulement le baromètre, comment on juge une chose ou une autre, ça doit être aussi le manuel d'utilisateur de notre vie, savoir comment on mène une vie en rapport avec la pensée de Dieu. La Bible nous instruit comment nous devons vivre notre vie, ce qui plaît à Dieu, ce qui déplaît à Dieu, ce que Dieu bénit comme ce que Dieu maudit. On doit connaître ces choses-là pour mener la vie à laquelle nous a appelé celui qui nous a créé. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il ne doit subsister en nous aucun doute. Cette parole est éprouvée et elle est attestée comme étant supérieure à toute autre pensée et particulièrement à toute autre philosophie et à tout autre écrit. La parole de Dieu est unique et seul récipiendaire et seul garde de la pensée et de la sagesse divine. Certains veulent entrer dans un peu cette philosophie qu'on a vue régulièrement dans l'histoire apparaître, notamment pour la France, lors de la Révolution française. On a élaboré une espèce de culte qu'on appelait le déisme, qui prend des manifestations différentes d'époque en époque, de siècle en siècle, mais qui revient régulièrement. Et je dirais qu'aujourd'hui, le déisme, c'est un peu la pensée œcuménique qui nous amènerait à dire il y a un seul Dieu, et ça c'est vrai, mais ce seul Dieu se manifeste pour chacun d'entre nous dans la croyance qu'on peut avoir. Alors pour certains, ils vont l'appeler Jésus, pour d'autres, ils vont l'appeler Allah, pour d'autres, ils vont l'appeler Bouddha, pour d'autres, ils vont l'appeler Confucius, ou la pensée qui émanait de Confucius. Soyons très très clairs, le Dieu de la Bible se déclare comme seul et unique. Le Dieu de la Bible, qui se déclare comme le juste juge, ben nous dit voici ce qui est bien, voici ce qui est mal. Et dans ce qui est bien et dans ce qui est mal, ça diffère régulièrement, énormément, par rapport aux autres grands cultes ou aux autres religions. Donc si nous sommes croyants, enfants de Dieu, chrétiens, convaincus, alors nous devons aussi avoir cette conviction en nous que le seul manuel qui a été donné pour vivre cette vie, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas le livre de tel ou tel prophète ou tel auteur ou tel philosophe ou tel penseur. Le seul manuel qui nous dit comment vivre notre vie afin d'avoir la bénédiction de Dieu, c'est la Bible. Et c'est important de revenir à ça parce que lorsqu'on prend ce verset 12 d'Hébreux et qu'on le remet dans le contexte de l'ensemble du chapitre, on nous parle de ceux qui devaient rentrer dans le repos de Dieu, mais qui en ont été exclus. Ceux qui devaient avoir accès au repos de Dieu, donc au salut, au shalom de Dieu, à la paix avec Dieu, à la réconciliation avec Dieu, mais qui sont passés outre cette bénédiction. Donc on parle de ceux qui sont sauvés versus ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui auraient dû être sauvés et qui par leur choix et leur décision se sont exclus du plan salvateur de Dieu. Donc on parle vraiment ici de délimiter, de séparer, on va revenir sur ce terme de séparation tout à l'heure, ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas de Dieu. Et la parole, la Bible, nous enseigne toute la vérité et toute la pensée de Dieu. Donc efficace, éprouvée, attestée comme supérieure. On nous dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée. Ici, on fait la comparaison donc avec une épée. Et le terme épée, c'est le terme Makaira. Makaira, Machaira. Et quand on parle de Makaira, oui, c'est un couteau d'une petite dimension, donc une petite épée. On parle d'une petite épée assez large ou d'un couteau qui est pointu. Et qui va servir pour deux choses, soit comme un outil de travail, et dans ce cas-ci, on va penser effectivement dans certaines tâches un peu comme un boucher qui va avoir à dépecer une bête qui a été mise à mort, ou on parle aussi d'une arme. Donc la Bible va être à la fois un outil de travail, donc ce manuel de l'utilisateur. Duquel je parlais tout à l'heure. Donc, la vie nous est prêtée, le souffle de vie nous est donné, afin qu'on mène une vie sous le regard et sous l'approbation de Dieu. Et pour ce faire, on a un manuel qui s'appelle la Bible. Et en ce sens, la Bible est donc un outil pour nous. De surcroît à cela, la Bible nous dit d'elle-même, de la parole de Dieu, elle nous dit qu'elle est une arme. Et dans Éphésiens au chapitre 6, lorsqu'on voit l'ensemble des armes qui nous sont données, ou l'armure du croyant, on va parler du casque jusqu'aux sandales qui couvrent ses pieds, la seule arme qui est à la fois défensive et offensive, c'est l'épée qu'est la parole de Dieu. Alors lorsqu'on parle d'une épée dans la Bible, on va traiter donc non seulement d'un outil de travail. Je me rappelle mon grand-père, en fait mes deux grands-pères avaient toujours sur eux un petit couteau. Et typiquement, en arrivant au repas par la suite, ils ouvraient leur couteau. Ils étaient tous les deux très enclins au jardinage, donc ils en avaient tout le temps besoin, ils avaient tout le temps l'utilité d'avoir un petit couteau dans la poche pour faire une activité ou une autre. Dans l'époque rurale, c'était quelque chose de très commun d'avoir une épée. En fait, personne ne partait en voyage sans une épée. Est-ce que c'était pour se défendre? À l'occasion, effectivement, mais très souvent, c'était tout simplement parce que sur le chemin, on aurait besoin de couper quelques branches pour en faire du feu. On aurait besoin peut-être de dépecer une viande, un animal. On aurait peut-être besoin de couper un morceau de pain, de couper peut-être du fromage pour partager des victuailles. Donc un couteau était à la fois toujours perçu comme étant un outil et une arme. Et pour nous, en tant que chrétiens, on doit l'utiliser aussi de telle manière. Outil pour nous mener, pour nous amener à mener la vie à laquelle on a été appelé, et aussi une arme pour se défendre contre les ruses, contre les stratagèmes du diable et contre les attaques du diable. Mais on nous dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. Et là, le terme quelconque, c'est un peu trompeur en français. Quelconque en français va souvent avoir la connotation de quelque chose de banal. Ça serait contradictoire par rapport à l'épée à double tranchant à laquelle la Bible est comparée. Lorsqu'on parle d'une épée à double tranchant, dans la culture de l'époque et dans les us et les pratiques de l'époque, une épée à double tranchant était une épée de grande qualité. Il y avait le couteau avec un seul tranchant, qui était l'apanage d'un peu tout le monde, qui était ce que un peu tout le monde avait. Mais lorsqu'on avait le privilège ou la grâce d'avoir une épée à double tranchant, ça représentait aussi un investissement, ça représentait une richesse, ça représentait aussi un outil de grande qualité. Donc ici, lorsqu'on parle de quelconque, on ne peut pas parler d'une épée de grande qualité quelconque. Non, quelconque ici doit être interprété dans le sens grec du terme, le terme passe, PAS, une épée quelconque passe, qui va vouloir dire chacune des épées. Alors de façon précise, cette épée que nous avons, qui est la parole de Dieu, est plus tranchante que toute épée individuelle. Alors lorsqu'on la compare à l'ensemble des épées individuelles qu'il peut y avoir, la parole de Dieu est plus tranchante qu'aucune de ces épées. Donc, pour aller de façon plus tranchante, pour utiliser le terme aussi, si on la compare au Coran, la parole de Dieu, elle est plus tranchante que le Coran ne pourrait l'être. La parole de Dieu est plus tranchante que le livre du prophète Smith chez les Mormons, est plus tranchante que telle pensée de Confucius, est plus tranchante que telle pensée que Bouddha pourrait avoir transmise. La parole de Dieu est plus tranchante lorsqu'elle se compare individuellement à tout autre livre, mais la parole de Dieu est aussi plus tranchante lorsqu'elle se compare à l'ensemble de tous les autres livres. Lorsqu'on parle de quelconque, on parle donc de toutes et chacune, ou de chacune et toutes. Donc de chacune prise individuellement, mais aussi de l'ensemble de ce qu'elle pourrait représenter. Alors vous amèneriez toutes les pensées œcuméniques qu'il peut y avoir actuellement en excluant la Bible, mais vous ramasseriez toutes les pensées philosophiques, ésotériques et autres qui peuvent exister, vous les rassemblez, vous les combinez en un seul volume, et encore là, la parole de Dieu est plus tranchante que l'ensemble de ces ouvrages-là. Donc, efficacité supérieure en tant qu'outil et en tant qu'arme, face à toute épée individuelle et face à toute épée réunie. De surcroît, là, on a vu que c'était une arme tout à l'heure pour se prévaloir d'une protection contre les attaques de l'ennemi. Alors, contre les attaques ponctuelles, tout comme contre les attaques soutenues, tout comme contre les attaques agglomérées ou regroupées de l'ennemi. Voilà pourquoi David va être capable de dire qu'il ne craint pas, même si 10 000 se levaient contre lui, il en sortirait vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il est armé de la parole de Dieu. Alors, plus efficace qu'une quelconque épée à double tranchant, et on a vu tout à l'heure que c'était une épée de grande qualité. Alors là, non seulement la parole de Dieu, la Bible, est supérieure à tout autre écrit individuel, à tout autre écrit qui serait rassemblé en conglomérat, qui serait rassemblé en un seul volume, qui regrouperait toutes les sagesses de cette humanité passée, présente et future. Tu rassembles tout cela en un seul livre, et encore, ce n'est pas tranchant comme la parole de Dieu. Et de surcroît cela, on compare la Bible même à cette épée à double tranchant, donc une épée de grande qualité, ou à toutes les épées de grande qualité, et encore là, la Bible est supérieure. Donc en fait, ce que l'auteur aux Hébreux est en train de nous dire, c'est que peu importe à quoi vous comparez la parole de Dieu, elle est tout simplement supérieure à tout cela, ou incomparable. Ça veut donc dire que peu importe le livre, la pensée, le philosophe, l'auteur, le penseur à qui vous pourriez, vers qui vous pourriez vous tourner, il n'y a aucun de ces écrits qui soit tranchant comme la parole de Dieu. Et voilà pourquoi maintenant je veux revenir dans le terme tranchant. Le terme tranchant, c'est le terme tomos. Tomos. En fait, c'est plus que tomos. Tomos veut dire plus tranchant que. Donc, il y a la pensée de supériorité et de comparatif dans tomos. Donc, on va dire qu'elle est plus tranchante. Quand on parle de quelque chose qui est efficace à trancher, c'est une chose qui va avoir foncièrement, et c'est là la clé de notre pensée aujourd'hui, qui va avoir foncièrement trois raisons d'être ou trois fonctions. La première, et c'est dans le mouvement tout simplement normal du tranchant, on perce tout d'abord. Que ce soit parce que la pointe est acérée, la pointe du couteau est acérée, que ce soit parce que le tranchant est effilé, mais au départ, si on prend une pièce de viande et qu'on fait passer la lame sur la pointe et on commence à faire un mouvement lent, on va se rendre compte que l'extérieur de la pièce de viande va se percer. Donc la première chose à quoi va servir une épée, c'est qu'elle va tout d'abord percer. Alors elle va percer tout ce qui serait protection, tout ce qui serait frein, tout ce qui serait carapace. Et cette idée va être plus encore plus importante ou plus encore détaillée dans les deux autres fonctions qu'on va dire. Régulièrement, nous en tant qu'humains, de par notre péché, de par notre tendance pécheresse, notre nature pécheresse, on essaie de se rabattre sous une espèce de carapace qui nous rend insensibles à la parole de Dieu, qui fait que cette parole de Dieu pourrait ne pas être efficace dans notre vie. C'est comme si on s'élève des murs, on s'élève tout un tas de couches extérieures qui empêcheraient à la parole de Dieu de pénétrer, sachant que la parole de Dieu pénètre partout et en tous. La parole de Dieu nous dit qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir porté le fruit pour lequel elle est proclamée. Et si cette parole de Dieu est une épée, alors le fruit de l'épée, c'est d'avoir tranché quelque chose. Et il ne peut pas y avoir de tranchage sans qu'il y ait un perçage. Donc la parole de Dieu va percer à travers les couches extérieures de notre vie pour aller jusqu'au plus profond de notre être. Dieu ne s'intéresse pas strictement à ce qui est à l'extérieur. Dieu ne s'intéresse pas strictement à ce que les hommes peuvent voir, à ce que les hommes peuvent penser, mais il va encore plus profondément à l'intérieur de nous. Et je vous dirais que si la parole de Dieu doit apporter des changements et des modifications dans notre vie, il ne faut pas que ces changements soient tout simplement extérieurs, soient tout simplement au niveau de l'épiderme. Il faut que ces changements soient au plus profond de l'être humain. Lorsqu'on veut que quelqu'un change profondément ou change drastiquement son comportement, ben ça va imposer quelque chose qui est plus que de l'extérieur et de l'apparat. C'est des valeurs intrinsèques, ce sont des pensées intrinsèques qui vont être amenées à changer, et ces pensées vont être changées lorsqu'elles sont exposées à la parole de Dieu. Donc le Seigneur va, par sa parole, percer dans nos murailles, percer dans nos cuirasses d'incrédulité, percer dans nos cuirasses d'entêtement, afin de faire pénétrer sa parole. Alors la première raison pour le tranchant, c'est pour percer. La deuxième raison, vous continuez votre mouvement de couteau. Vous venez de percer la couche supérieure et vous coupez, vous allez jusqu'au fond du fil de la lame, vous revenez de l'avant. Et à un moment donné, il y a deux pièces qui vont se séparer. Quand vous prenez un morceau de viande, un steak, on va dire, un morceau de bœuf, et que vous l'avez fait cuire, lorsque vous voulez le manger, vous allez piquer avec la fourchette, et là, vous allez faire un mouvement avec votre couteau qui va faire en sorte que d'une seule pièce, vous allez dès maintenant vous retrouver avec deux morceaux. Donc, c'est pour séparer une chose d'une autre. Et lorsqu'on revient dans le contexte d'Hébreux 4, on vous rappelle, c'est un contexte où l'auteur aux Hébreux va nous parler de ceux qui ne sont pas entrés dans le repos de Dieu, de ceux qui ne peuvent pas entrer dans le repos de Dieu, donc ceux qui ont été séparés du repos de Dieu. La parole de Dieu va nous permettre de délimiter ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas de Dieu, va délimiter ce que Dieu approuve de ce que Dieu n'approuve pas, va séparer ce que Dieu bénit de ce que Dieu maudit, ou de ce que Dieu bénit de ce que Dieu condamne. Donc la parole de Dieu, non seulement elle va percer, mais une fois qu'elle aura percé, elle va séparer le bien du mal. Elle va séparer de ce qui est approuvé, voit de ce qui est désapprouvé ou réprouvé par Dieu. Donc la parole de Dieu a ces deux efficacités-là. Un, de percer profondément dans notre être, puis de nous amener à séparer dans notre vie ce qui plaît de ce qui déplaît à Dieu. Et enfin, troisième pensée, c'est qu'une fois que la chose a été séparée, c'est alors que vous pouvez voir l'intérieur de cette chose. Lorsque vous voulez voir la cuisson d'un steak, et je sais, je reviens toujours à la nourriture, ou je reviens régulièrement à la cuisine, mais vous savez comment j'apprécie cuisiner. Lorsque vous faites cuire un steak, oui, il y a toujours certaines techniques avec le thermomètre, avec la densité de la viande sur laquelle vous allez appuyer, et selon la dureté de la viande, vous savez que vous êtes rendu à tel ou tel degré de cuisson. Mais pour en avoir une idée claire, une idée précise et juste, cette idée-là va être attestée simplement une fois qu'il y aura eu la séparation. Donc là, vous allez couper un morceau et vous allez regarder l'intérieur du morceau et vous allez voir, est-ce que la viande est cuite à bleu? Est-ce que la viande est cuite à saignant? Est-ce que la viande est cuite à médium, à très cuit, à bien cuit? C'est à ce moment-là, au regard que vous allez poser à l'intérieur du morceau, qui est maintenant exposé puisqu'il a été tranché et séparé, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir voir de quoi est constituée cette viande ou si elle est apprêtée adéquatement. Et lorsque on parle de cette épée, non seulement donc elle perce, non seulement elle sépare, mais de surcroît à cela, c'est cette épée qui va permettre d'exposer aussi les profondeurs du cœur. Régulièrement, on peut afficher bien des choses aux yeux de tous, aux yeux de nos concitoyens, de nos congénères, de nos contemporains. On vit une vie et les gens peuvent acclamer en disant « voici un bon gars ». Mais lorsque la parole de Dieu vient à percer, à couper, à séparer, elle va aussi exposer l'intérieur. Et ce n'est pas une exposition pour faire honte. C'est une exposition pour nous amener à chercher grâce et salut auprès de Dieu. Rappelons-nous, le plan de Dieu à travers sa parole, c'est de nous montrer comment vivre une vie qui lui est agréable. Comment venir au repos avec Dieu, donc au shalom, à la paix avec Dieu. Mais pour venir à la paix avec Dieu, il faut aussi comprendre que nous sommes séparés de Dieu. Il n'y a aucun autre livre que la Bible qui nous enseigne qu'effectivement nous sommes pécheurs et que nous sommes par conséquent privés de la gloire de Dieu. Le livre qui nous expose véridiquement ce qui sépare notre condition d'avec Dieu, ce qui fait que nous sommes retranchés du repos de Dieu, c'est la Bible. Elle nous enseigne que par nos péchés, nos iniquités, nos fautes, nous sommes privés de cette communion avec Dieu. Nous sommes privés de cette relation intime avec Dieu. Nous sommes privés de cette éternité à passer dans la présence de Dieu. Le livre qui nous révèle l'état de notre cœur et le besoin inhérent de la race humaine, d'un sauveur et du salut, c'est la Bible. Donc la parole de Dieu va servir à percer, va servir à séparer, mais aussi à exposer la réalité de nos cœurs. Et elle va exposer non seulement la réalité de celui qui est pécheur et qui ne s'est pas encore repenti, en lui démontrant que s'il continue dans cette voie, il va vers une éternité séparée de la présence de Dieu. Mais de surcroît à cela, elle nous enseigne aussi comment faire la paix avec Dieu. Mais plus encore, comment une fois la paix établie entre moi et Dieu, comment mener une vie qui lui est agréable. Et par conséquent, pour que j'aille de progrès en progrès, pour que j'aille de transformation en transformation, pour que je puisse m'améliorer dans ma proximité avec Dieu, dans la paix avec Dieu, ben faut-il encore que je sache ce qu'il y a à retrancher. On comprend tous que le poids du péché est effacé à travers la mort de Jésus lorsque je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, lorsque je le proclame sur mon existence comme Seigneur et Sauveur. Mais comme vous et moi, notre nature pécheresse revient au galop. Notre nature pécheresse ne nous abandonne pas. Et par conséquent, comme Paul va dire, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne voudrais pas faire, voilà ce que je fais. Paul est en train de constater que de par sa nature pécheresse, il est sans cesse en train de tomber, sans cesse en train de faire ce que Dieu lui demande de ne pas faire. Alors par conséquent, j'ai besoin que la parole de Dieu continue à m'instruire tout au long de mon périple, tout au long de mon cheminement, sur ce qui est important de changer, de transformer. Aller de progrès en progrès, ça veut dire que j'ai un statut aujourd'hui, j'ai un état aujourd'hui, et demain, mon état sera meilleur. J'aurai progressé, j'aurai avancé, je me serai amélioré. Je ne peux pas m'améliorer s'il n'y a pas un constat qui dit « Florent, tu as encore place à l'amélioration. » Un peu comme un athlète, je voyais dernièrement un reportage sur certains athlètes qui se préparent pour les Jeux Olympiques, notamment au niveau du sprint. Et tout au long du cycle olympique, donc des 4 ans qui nous mènent vers les Jeux Olympiques, les athlètes vont s'entraîner, vont faire diverses compétitions et même à l'entraînement vont avoir des chronomètres pour savoir voici ce qui doit être amélioré. Et l'entraîneur qui est là va regarder son athlète et va dire il y a un problème au démarrage. Et parfois, c'est tout simplement la position de la tête. Ils vont dire, tu as la tête qui se relève beaucoup trop vite. Donc, tu perds de la vitesse à ton démarrage. Et un des entraîneurs que je voyais disait à son athlète, fais quelques pas de plus, toujours avec la tête baissée et commence graduellement, après une dizaine de pas, à relever pleinement la tête. Une fois que tu auras ton rythme de croisière. Mais si tu y vas trop vite, tu perds de ta puissance et tu perds de ton de ton effet aérodynamique qui permettent d'accélérer. Donc il lui disait, voici ce que j'ai vu, voici ce que tu dois améliorer. La parole que cet entraîneur a donnée à son athlète est allée percer précisément dans des endroits et a exposé des lacunes de son athlète afin que celui-ci puisse améliorer sa course, améliorer ses temps. Et nous qui sommes athlètes, puisque la Bible nous dit qu'en tant que croyants, nous sommes plusieurs choses, nous sommes soldats, nous sommes serviteurs, nous sommes enfants, mais la Bible nous compare aussi à des athlètes. Et un athlète ne peut pas stagner. Un athlète se doit d'aller de progrès en progrès. Et pour ce faire, nous avons besoin d'entendre notre entraîneur, le Seigneur, notre Dieu, nous dire à travers sa parole, voici quel aspect de ta vie n'est pas ce qu'il devrait être. Voici quel élément de ta vie n'est pas ce qu'il devrait être. Et sa parole, par conséquent, va percer, va séparer ce qui plaît et ce qui ne plaît pas, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et de surcroît à cela, va exposer à nos yeux, en tant que croyants, la petitesse et la faiblesse de notre être, la faiblesse de notre comportement, afin d'apporter les changements, afin de prendre les décisions qui s'imposent. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette parole qui reste encore aujourd'hui vivante, efficace, cette parole qui est incomparable à toute autre parole issue de cette terre, cette parole qui ne peut aucunement être comparée à quoi que ce soit qui serait un amas de pensées humaines, qui serait même une sagesse que l'on croit élevée humainement parlant. Ta parole est la seule, est le seul manuel d'instruction pour mener une vie qui t'est agréable. Ta parole, Seigneur, nous dit réellement quel est notre état, d'abord en tant que pécheur, puis en tant que croyant qui est chaque jour modifié, transformé, amélioré, afin de parvenir à la stature parfaite de Christ, comme Paul disait qu'il aspirait. Alors Seigneur, nous te prions qu'à travers ta parole, tu puisses percer. Perce Seigneur les coffres forts de notre vie. Perce Seigneur jusqu'à aller dans les profondeurs de notre vie qu'on veut cacher, qu'on veut soustraire de ton regard. Ta parole va précisément dans ces endroits-là, pour que dans ces endroits ténébreux, ta lumière puisse jaillir. Aussi, Seigneur, ta parole vient à trancher, à séparer des choses de notre vie qui ne te glorifient pas. Ta Bible, Seigneur, nous dit que nous sommes les sarments et que lorsqu'un sarment ne produit pas de fruits, on l'émonde. Donc, on coupe des parties de ce sarment pour qu'il puisse porter du fruit. Et s'il porte du fruit, on l'émonde malgré tout pour qu'il porte encore plus de fruits. Nous prions, Seigneur, que ta parole puisse trancher et que ta parole puisse exposer, nous exposer véritablement face à nous-mêmes, nous exposer réellement face à notre état. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous éclaires afin parfois d'abandonner des choses qui te déplaisent, des choses qui sont en fait des boulets à nos pieds, des choses, Seigneur, qui nous empêchent d'avancer comme tu le désires, au rythme où tu le veux, dans la direction vers laquelle tu veux qu'on chemine, et Seigneur, de la manière que tu voudrais qu'on marche. Alors nous prions, Seigneur, effectivement, que tu opères par ta parole ce qui doit être opéré. Perce, sépare, expose, pour que nos vies puissent servir à l'avancement de ton royaume et remplir le merveilleux dessein que tu avais pour nous de toute éternité en vue de notre création. Alors je bénis ma sœur, je bénis mon frère, je demande que ta parole leur parle ce matin, que ton esprit, Seigneur, oigne cette parole par une onction toute fraîche, toute particulière, que ta lumière aille pointer dans des endroits bien précis, bien cachés de notre vie, pour que demain, Seigneur, nous ayons progressé devant toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. On vous rappelle deux ou trois choses importantes. Donc ce soir, étude biblique à 19h. Oui, c'est disponible sur toutes les plateformes Internet que nous utilisons en tant qu'Église. Mais de surcroît à cela, c'est aussi ouvert en présentiel. Et croyez-moi, il n'y a rien de mieux qu'une étude biblique en présentiel. C'est autre chose. Juste être au milieu de ses frères et ses sœurs. N'avez-vous pas le sentiment d'avoir été pendant trop longtemps privé de vos frères et de vos sœurs? Donc pourquoi ne pas profiter de cette assemblée de ce soir pour être là? Pas besoin de s'inscrire le mercredi. On tient le registre directement à la porte. Donc on vous invite à être là à partir de 19h. Soyez là même un peu à l'avance. Les portes sont toujours ouvertes une bonne heure avant que l'assemblée ne débute. Donc ce soir, 19h, étude biblique. Et aussi, ben, pour l'assemblée de dimanche, on maintient les inscriptions. Donc on vous demande de nous appeler ou de nous écrire par courriel pour réserver une place pour ce dimanche. Toujours 10h, heure de Montréal. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin pour la prochaine bénédiction matinale. Sinon, c'est ce soir avec un de nos orateurs pour l'étude biblique de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.